cette élection présidentielle. Je me revendique du communisme, non pas de la caricature qu'en a donné le régime des bureaucrates dans l'Union soviétique ou dans les pays de l'Est. Je ne me revendique pas plus de la Chine, qui derrière une étiquette communiste dissimule un capitalisme sauvage. Je me revendique du communisme tel qu'en ont rêvé des générations d'ouvriers, d'une société débarrassée de la dictature de l'argent. Je me revendique du communisme tel qu'en ont rêvé des générations d'ouvriers, d'une société débarrassée de la dictature de l'argent, de l'exploitation, de la concurrence et des crises. Une société gérée fraternellement et démocratiquement par la collectivité de ceux qui travaillent et produisent. Je me revendique des idées d'émancipation sociale qui ont inspiré les communards en France et que les ouvriers russes ont commencé à réaliser en 1917. Le courant communiste est aussi ancien que les mouvements ouvriers lui-même. Il a été porté par des générations de femmes et d'hommes qui ne pouvaient pas accepter l'idée que la société capitaliste puisse être l'avenir de l'humanité, alors qu'elle est aussi injuste qu'aveugle. À certains moments, ce courant a été représenté par des grands partis, comme l'était le Parti socialiste à sa naissance, ou le Parti communiste un peu plus tard. Au fil du temps, et sous la pression du capitalisme, les directions de ces grands partis ont trahi leur cause pour s'intégrer dans le système et pour limiter leurs aspirations politiques à devenir les gérants loyaux d'une société dominée par le grand capital. Le courant communiste révolutionnaire a donc connu des hauts et des bas, mais il n'a jamais disparu. Il y a toujours eu des femmes et des hommes pour défendre la perspective de la révolution sociale, la perspective d'une société sans classe sociale, sans l'exploitation capitaliste. Ce courant a systématiquement pris le contre-pied du fatalisme et de l'acceptation prêchée par la bourgeoisie. Et il s'est battu, au contraire, pour que les travailleurs qui font tout tourner dans l'économie prennent conscience qu'ils peuvent aussi la diriger et qu'ils pourraient collectivement le faire 1000 fois mieux que ne le font aujourd'hui les capitalistes. Si le courant communiste révolutionnaire a toujours refusé de s'intégrer au système politique de la bourgeoisie, il a toujours tenu à se faire entendre dans toutes les élections. Eh bien, c'est ce courant que je veux représenter dans cette élection présidentielle. Toutes celles et ceux qui sont convaincus que cette société d'exploitation est à renverser et qu'il n'y a rien à garder du système capitaliste doivent l'affirmer. Toutes celles et ceux qui sont fiers d'avoir conservé envers et contre tout leurs idéaux, leurs rêves et leurs convictions que l'avenir ne peut être que dans une société communiste doivent l'exprimer. Même dans les élections, on peut lever le drapeau de la révolution sociale. Et ce d'autant plus que la faillite de ceux qui dirigent l'économie est patente. D'autant plus qu'il est manifeste qu'une économie basée sur la loi du profit, la concurrence et la propriété privée nous emmène dans le mur. Il faut que dans cette élection se manifeste un courant politique qui se place du point de vue des travailleurs et exclusivement de ce point de vue. Tous ceux qui ont subi un licenciement le savent. Un salarié qui perd son emploi et son salaire perd tout. C'est l'angoisse du lendemain et c'est le début de la plongée vers la pauvreté. Toute la société souffre du chômage. Ceux qui en sont frappés, et leurs familles, mais ceux qui sont encore en activité, mais qui vivent sous la menace d'un licenciement. Et puis aussi les petits commerçants, les artisans, dont le revenu est lié au salaire des travailleurs. Et dans les quartiers populaires, laissés à l'abandon, le chômage est à la base de l'insécurité, de la violence, du chacun pour soi, du communautarisme. Depuis 30 ans, tous les gouvernements qui se succèdent, de droite ou de gauche, ont montré qu'ils étaient incapables de mettre fin au chômage. Leur seule solution, c'est d'accorder des faveurs au grand patronat, des allègements fiscaux, des diminutions de cotisations patronales, censées inciter les patrons à embaucher. Et en matière d'exonération de cotisations, l'imagination de la droite comme de la gauche est sans limite. Mais les patrons encaissent les cadeaux, ils profitent des dégrèvements, mais ils n'embauchent pas. Eh bien, puisque l'incitation ne marche pas, il faut leur imposer des mesures contraignantes. Il faut interdire les licenciements sous peine d'expropriation. Quand nous disons qu'il faut interdire les licenciements, on nous oppose toujours que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réaliste, parce que cela risquerait de mettre les entreprises en difficulté. Mais les travailleurs, eux, quand ils se retrouvent sur le carreau, ils sont plongés dans les pires difficultés. Ce sont les impayés qui s'accumulent, les découvertes bancaires, les agios, les menaces de coupure de téléphone, d'électricité. Et il faudrait qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent au restaurant du cœur, qu'ils arrêtent de se soigner. Eh bien non, c'est leur vie, c'est leur emploi et c'est leur salaire qu'il faut préserver, d'abord et avant tout. Et tous les autres candidats qui n'imaginent pas ou qui refusent de mettre en avant ces revendications vitales pour les travailleurs parce qu'ils craignent de gêner les affaires de la bourgeoisie. Ils n'imaginent rien d'autre, cela, qu'une politique favorable ou acceptable par la bourgeoisie. Alors il n'y a aucune raison de leur laisser dans cette élection le monopole de la parole. Dans cette élection, il faut dire que non, ce n'est pas aux classes populaires et aux travailleurs de payer la crise, et que c'est aux possédants d'assumer financièrement les ratés de leur économie. Et il faut un courant qui affirme qu'il est vital, urgent, d'imposer et de contraindre la bourgeoisie à payer pour assurer et garantir les emplois, les salaires, les retraites, les services publics, et ce, quoi qu'il en coûte à la bourgeoisie. Et si les profits d'aujourd'hui ne suffisent pas, eh bien il faut forcer les capitalistes à puiser dans les profits passés et même dans les fortunes privées accumulées au fil du temps. Ce qui sera déterminant dans l'avenir, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes prêts à en découdre avec le patronat. Parce qu'avec la crise, eh bien la lutte de classe est devenue de plus en plus violente. Confrontés à la crise, les capitalistes compensent leurs pertes en aggravant l'exploitation. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires oubliées sur les fiches de paye. Ce sont les horaires de travail toujours plus dingues. Ce sont aussi les accidents du travail maquillés en arrêt maladie. Ce sont les intérimaires, les stagiaires qui sont renvoyés du jour au lendemain et le boulot qui retombe sur ceux qui restent. Tout est bon pour baisser la masse salariale, à commencer par les licenciements et les fermetures de sites. Faire la liste des groupes capitalistes qui ont licencié ou supprimé des emplois depuis 3 ans est impossible. Ils l'ont quasiment tous fait. En 3 ans, 900 usines ont fermé dans le pays, c'est-à-dire une par jour. Et il y a eu 1 million de chômeurs supplémentaires sur les 5 dernières années. 1 million qui s'est rajouté aux 3 millions de femmes et d'hommes déjà privés de travail. Alors comment après cela être surpris que plus de 11 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et que les restaurants du cœur sont assaillis? Et tout ça pourquoi? Pour que les dividendes des actionnaires soient préservés, pour que les fortunes des plus riches soient garanties. Alors on nous dit que c'est la crise. Ça, c'est sûr, personne ne peut le nier, c'est bien la crise. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort indemne avec tous ses profits et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça, c'est le résultat d'une politique. C'est le résultat de la lutte de classe. Et beaucoup s'étonnent que dans ce contexte de lutte de classe de plus en plus violente, eh bien, il n'y ait pas plus de réaction de la part des travailleurs. Mais la crise que nous vivons est souvent comparée à la crise mondiale de 1929. Eh bien, à l'époque, il a fallu attendre 1934 aux États-Unis, 1936 en Espagne et en France pour que les travailleurs trouvent le chemin des luttes et de la grève générale. Il a fallu des années donc pour que les travailleurs fassent de la résignation, du désespoir impuissant, voire réactionnaire, à l'espoir d'inverser le cours des choses. Eh bien aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la matière explosive s'accumule dans la classe ouvrière. Le moment de la révolte de millions et de femmes viendra tôt ou tard. Eh bien il faut que dans cette révolte, les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent pourquoi se battre et comment faire pour inverser durablement le rapport de force avec la classe capitaliste. patronat est donc à l'offensive. Et il a, en la personne de Sarkozy, trouvé le porte-parole idéal, le serviteur zélé. Un serviteur zélé qui s'emploie dans cette campagne à s'adresser à son électorat. La bourgeoisie, petite et moyenne, qui se cramponne à sa propriété, qui méprise les salariés, qui votent traditionnellement à droite. Dans les discours de Sarkozy, comme celui qu'il a fait à Villepinte, il y a toujours de quoi chatouiller agréablement les oreilles de tous les petits patrons réactionnaires. De tous ces petits patrons prompts à assimiler les salariés à des fainéants et à considérer que ceux qui sont au chômage l'ont bien cherché. Les chômeurs et les allocataires du RSA n'ont droit qu'au mépris et sont traités d'assistés. Les chômeurs ont toujours droit à leurs leçons sur les droits et les devoirs, comme s'ils ne faisaient pas tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver un emploi. Le mérite, l'enrichissement et la réussite sont présentés par Sarkozy comme s'ils étaient toujours le résultat du travail et de l'effort. Mais il n'y en a pas que pour chatouiller les oreilles du patronat, petit et grand. Il y a aussi des promesses sonnantes et trébuchantes à leur égard. Sarkozy a par exemple promis une nouvelle exonération de cotisations pour les patrons. Ce cadeau s'adresse cette fois aux patrons qui embaucheraient des travailleurs de plus de 55 ans. Il y a déjà les exonérations pour l'embauche des jeunes, pour l'embauche de smicards, pour l'embauche de travailleurs handicapés. Eh bien, voici maintenant les exonérations pour l'embauche des anciens. Eh bien, à ce rythme, Sarkozy va finir par décréter l'exonération totale et permanente de cotisations pour tous les patrons, dans tous les cas, et ainsi ses amis du MEDEF seront comblés. Tout ça alors que la campagne est marquée par le chantage à la dette. Alors que Sarkozy répète semaine après semaine qu'il ne peut être question de dépenser un centime de plus et que l'État est au bord de la faillite. Eh bien voilà qu'il trouve quand même assez d'argent pour offrir un nouveau cadeau de quelques milliards au patronat. Et évidemment, Sarkozy ne loupe jamais une occasion de s'en prendre aux travailleurs immigrés. Il utilise les préjugés les plus abjects et les mensonges les plus grossiers. Il a par exemple présenté les vieux travailleurs immigrés comme des profiteurs d'allocations. Eux, que le patronat a usé jusqu'à la corde sur les chaînes de production, dans le bâtiment ou dans le nettoyage. Et pourquoi y aurait-il donc trop d'étrangers en France? Au prétexte que c'est la crise? Au prétexte qu'il n'y a plus de travail? Il faudrait dire à tous ceux qui ont trimé et qui continuent de trimer dans les travaux publics, dans la restauration, dans les hôpitaux, qu'il n'y a plus besoin d'eux et qu'ils peuvent bien aller crever. Et après, qui y aura-t-il de trop dans la société? Les jeunes? Parce que les jeunes aussi sont les premiers confrontés au chômage. Et puis après, ce sera le tour des femmes, parce qu'il y en aura qui nous diront que les femmes, eh bien, elles peuvent bien rester au fourneau. Eh bien non. Non, il n'y a aucun travailleur de trop dans cette société. Et l'intérêt collectif, eh bien, ce serait de répartir le travail et les efforts entre tous et d'avoir chacun un salaire qui permette de vivre. Mais cela, eh bien, il faudra l'imposer au patronat. Et pour l'imposer, eh bien, il ne faudra pas se laisser diviser. Mais il faudra au contraire unir toutes nos forces. Et je tiens à dire que les réactionnaires de droite et de gauche qui s'opposent à l'idée de la régularisation de tous les sans-papiers et qui s'opposent au droit de vote des travailleurs immigrés dans toutes les élections ne l'emporteront pas au paradis des urnes. Parce qu'en cas de grande lutte, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papier, ils se retrouveront dans la même fraternité collective de la lutte des travailleurs de toutes origines et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités.
Ce n'est pas ce cirque qui en fera un candidat du peuple, parce qu'on en a soupé des promesses de Sarkozy. Sarkozy monte en épingle la reprise de l'usine Le Jabi d'Issingeaux par son ami Bernard Arnault et celle de Photowatt par un autre ami, Proglio, le PDG d'EDF. Alors pour les travailleurs concernés, qui ont réussi à obtenir un sursis, c'est tant mieux.
Mais cela ne peut que nous rappeler qu'il y a des milliers et des milliers d'ouvrières et d'ouvriers dans la même situation.
Il y a bien sûr ceux dont on entend parler, les menaces de licenciement chez Petroplus, à ArcelorMittal, chez Peugeot Citroën, avec la fermeture programmée de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Mais il y a aussi tous ceux dont on n'entend pas parler, comme l'usine Merck dans l'Oise, comme l'usine Sony Médical près de Troyes, comme les pépinières d'Elbar à Montluçon. Enfin, je suis sûre que chacun d'entre nous ici pourrait rajouter encore à cette liste. Et quand il ne s'agit pas de fermeture d'usine, eh bien il y a les plans dits sociaux, ou des renvois d'intérimaires, qui sont ni plus ni moins que des licenciements. Alors quand Sarkozy se présente comme un sauveteur d'entreprise, eh bien il y a vraiment de quoi être en colère. Et quand Sarkozy nous explique, le gouvernement s'est vanté parce que l'augmentation du gaz n'a été que de 4,5%. Mais quel est le salaire? Quelle est la pension de retraite? Quelle est l'allocation qui a augmenté de 4,5%? Et à cela, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, du carburant, des produits alimentaires. Et c'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements de médicaments, les dépassements d'honoraires se sont multipliés à tel point que se soigner est devenu un problème pour beaucoup. Alors oui, il faut un rattrapage sur les salaires et sur les retraites. Mais si l'on veut ne pas être sans cesse appauvri par l'augmentation des prix, il faut en plus obtenir l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Les patrons s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent une hausse de leurs achats, eh bien ils la répercutent sur leurs prix. C'est facile pour eux, puisqu'ils fixent leurs prix. Ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Ils ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, eh bien, il faut que les salaires, comme les retraites, comme le RSA, comme les allocations logement familial, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Qu'augmenter les salaires, ce n'est pas possible, ça la ruinerait. Que le pays a un problème de compétitivité. Les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la famille, pour les retraites, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils versent des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches. Ou pire encore, dans la spéculation. Eh bien, il faut que la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans les entreprises. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, des niches fiscales, ce que l'entreprise verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons rabâchent que les travailleurs coûtent cher, mais combien leur rapportent-ils et combien leur coûtent les actionnaires ? Toute la société a intérêt à ces contrôles. Parce que les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles volent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Eh bien, il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table. Il faut donner aux travailleurs les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Il arrive quelquefois aux petits paysans, étranglés par les prix trop bas proposés par la grande distribution, de faire des actions pour montrer la différence entre le prix que les grandes chaînes leur versent et le prix auquel le consommateur achète. Eh bien, ce sont des initiatives dont les travailleurs doivent s'inspirer. Parce que les salariés ont infiniment plus de possibilités encore que les petits paysans pour procéder à ce type de contrôle au jour. Les travailleurs sont en position pour dévoiler les petites et grandes magouilles et pour montrer le vol à grande échelle qui caractérise l'activité économique de ces grands groupes capitalistes. Et plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique.
parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Ceux perpétrés par les banquiers et par les spéculateurs irresponsables, mais ceux aussi perpétrés par ces patrons, qui sont prêts à sacrifier la santé de leurs salariés au nom de la rentabilité, comme ce fut le cas de ces patrons, qui ont empoisonné des centaines de milliers de travailleurs avec l'amiante. Cette mesure, eh bien, ce serait un objectif essentiel dans une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Les travailleurs pourraient contester la programmation des fermetures de sites, les licenciements. Ils pourraient s'opposer aux décisions qui font fi de la protection de l'environnement et qui vont alors à l'encontre de l'intérêt des consommateurs. La crise actuelle montre clairement que la classe capitaliste, que les banquiers, préoccupés par leur seul profit privé, sont trop irresponsables à l'égard des intérêts de la société. Mettre en cause leur pouvoir dictatorial sur les entreprises est une nécessité sociale. Pour que les entreprises et l'ensemble de l'économie tournent au profit de tous, pour satisfaire les besoins de toute la population, il faut combattre la mainmise de la minorité capitaliste sur les grands moyens de production et les gérer collectivement le plus démocratiquement possible. Exproprier la classe capitaliste pour reprendre la maîtrise de l'économie est une nécessité. Et il faudra commencer par exproprier les banques. Et pas seulement parce que les banquiers se conduisent comme des irresponsables et qu'ils ont transformé les salles de banque en salles de casino, mais parce que ce sont les banques qui commandent à toute l'économie. Prendre la maîtrise des banques, c'est contrôler l'essentiel de l'économie. L'énergie, les transports, la distribution, c'est décider de l'usage fait des capitaux. Et puis c'est surtout les orienter, du coup. Les orienter dans des investissements utiles à toute la population. Exproprier les banquiers, c'est-à-dire nationaliser sans indemnité ni rachat les banquiers, les banques, et fusionner toutes ces banques en un seul établissement de crédit, eh bien, ce sera un pas de géant fait en direction de la gestion de toute l'économie par les travailleurs, avec l'expropriation des grands groupes du CAC 40 qui font la pluie et le beau temps dans l'économie, les travailleurs pourraient reprendre la maîtrise de toute l'économie. Et cela ne sera possible, bien sûr, qu'au travers d'une mobilisation puissante des travailleurs, qu'au travers d'une mobilisation révolutionnaire même, mais pour mettre fin à la dictature aveugle et nuisible d'une minorité sur l'économie, eh bien, il n'y aura pas d'autre voie. Et dans ces luttes, eh bien, la jeunesse, qui a toujours été à la pointe de la contestation, aura un rôle majeur à jouer. Alors dans cette campagne, je m'adresse aussi aux jeunes, à tous ces jeunes des quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Ils savent que la vie de leurs parents n'a jamais été rose, mais ils se disent que pour eux, avec le chômage, avec la crise, ce sera encore pire. Je veux m'adresser aussi à tous les jeunes des quartiers populaires qui subissent le contrôle aux faciès, qui sont marginalisés, sont accusés à longueur de journée de tous les maux de la société. Je veux m'adresser aussi aux jeunes diplômés qui rêvent peut-être d'une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue au comptoir d'un McDo ou à la caisse d'un supermarché. Eh bien, je dis à tous ces jeunes qu'il y a bien des raisons d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire en quelques jours ce que ne gagnera jamais aucun salarié toute sa vie durant ? Qu'est-ce que c'est que cette société ? Où on trouve des milliards pour les banquiers, des milliards pour les marchands d'armes, et où on nous dit qu'il n'y en a plus pour construire des logements, pour les écoles, pour les hôpitaux. Qu'est-ce que c'est que cette société ? Où l'argent, les profits, le luxe comptent plus que la vie humaine. Alors oui, cette société fonctionne à l'envers, et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes, et des jeunes conscients du combat à mener. Il faut des jeunes et des moins jeunes qui ne s'arrêtent pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau, aux différences de métier, aux différences aussi parce que les uns sont condamnés au chômage alors que les autres ont encore un travail. Il faut des femmes et des hommes conscients de partager un sort commun et conscients de faire partie d'une seule et même classe d'exploités capables de changer la société. De la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Les victoires, ils les ont toutes gagnées, de hautes luttes. Mais plus on approchera des élections du 22 avril, plus on nous fera croire que notre sort dépend du bulletin que chacun glissera dans l'urne. Il y a déjà une pression implicite ou explicite sur l'électorat de gauche pour le vote utile, c'est-à-dire pour le vote en faveur de Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus par Hollande votent pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance, et ceux qui ont encore en mémoire et sur le cœur les déceptions laissées par le Parti Socialiste chaque fois qu'il a gouverné, n'ont aucune raison de voter pour Hollande au premier tour. Ceux qui ont compris que Hollande fera ce que le patronat exigera de lui et qu'il les laissera seuls face à leur patron n'ont aucune raison de voter Hollande au premier tour. Il faut que Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, eh bien il y a une fraction dans la classe ouvrière qui ne lui fait aucune confiance. D'électeurs de l'électorat populaire critique vis-à-vis de Hollande. Ces airs de triban, ces envolées contre les puissances de l'argent peuvent plaire. Mais tout cela, c'est pour nous faire croire que le salut pour les travailleurs viendra d'un changement de gouvernement. Et Mélenchon ne s'en cache pas. Son modèle, en la matière, c'est le gouvernement Mitterrand. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie ? Dont Mitterrand, qui promettait même une rupture avec le capitalisme. Et combien parmi eux se sont sentis trahis parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et même en glorifiant la bourse. Alors, des faiseurs d'illusions gouvernementales, il y en a toujours eu. Et toute notre politique consiste à les dévoiler auprès des travailleurs, à prévenir les travailleurs des mauvais coups et des désillusions, et à les armer politiquement pour affronter l'avenir. Les travailleurs et les plus beaux ont appris à leurs dépens que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Alors, beaucoup sont écœurés devant le cirque politique, et ils projettent de s'abstenir, convaincus que voter ne sert plus à rien. Certes, le vote ne peut pas changer la vie des travailleurs, mais il offre l'occasion de s'exprimer. Pourquoi garder son poing dans sa poche et se taire quand on a l'occasion d'exprimer sa colère, quand on a l'occasion d'exprimer une colère consciente et de lever le drapeau des luttes? Des générations de travailleurs se sont battues pour avoir le droit de s'exprimer, pour avoir le droit de voter. Et bien des peuples se battent encore aujourd'hui pour avoir ce droit, en Égypte, en Syrie. Eh bien, nous, ce droit, nous l'avons. Eh bien, nous devons nous en servir, y compris pour dire que les élections ne changeront rien à la vie des travailleurs et que ce qui peut changer, c'est que les exploités inversent le rapport de force. Je serai
la seule à ne pas dire « Votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela, et tout ira beaucoup mieux pour vous. » Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est affirmer que l'on n'est pas dupe devant ces alternances électorales. C'est affirmer qu'il y a parmi les travailleurs, des femmes et des hommes conscients d'avoir à se battre par eux-mêmes. Tous ceux qui voudront affirmer qu'il faudrait refaire un mai 68 pour imposer l'interdiction des licenciements, pour imposer des augmentations de salaire et pour imposer un contrôle des travailleurs sur les entreprises et sur leur argent pourront le dire en votant pour moi. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes. Mais les luttes se préparent dans les têtes et on peut contribuer à les préparer dans les têtes de ceux qui nous entourent en popularisant un programme, des objectifs autour desquels on peut s'unir et se battre. Si dans cette élection présidentielle, nous nous retrouvons plusieurs centaines de milliers autour de ce programme de lutte, eh bien ce sera un pas considérable qui préparera la suite, qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les luttes, oui, ce sera un vote utile. Terminée et les urnes rangées, eh bien il faut que le programme que nous avons défendu dans cette campagne continue de l'être après. Pour cela, il faut un parti qui représente les intérêts politiques et moraux de la classe ouvrière. Mais celui-ci n'existera que lorsqu'il sera rejoint par plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'hommes prêts à se consacrer à la transformation de la société. Il n'existera vraiment que lorsqu'il pourra être présent et actif dans tous les domaines de la vie sociale, dans les entreprises d'abord, parce que c'est là que se mène, jour après jour, cette lutte de classe, et parce que c'est là que se décidera l'issue du combat entre les deux classes sociales. Mais il faut que ce parti soit présent aussi partout ailleurs, dans les quartiers populaires, dans les écoles où se forme la jeunesse, dans tous les domaines qui touchent à la vie des travailleurs. Nous sommes encore loin de cette situation, mais c'est cette présence de militants communistes qui peut aussi prendre le contre-pied de l'extrême droite et des forces réactionnaires de tous ordres qui essayent de capter à leur profit le mécontentement et la colère que la crise du capitalisme suscite. Alors, camarades et amis, en nous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées, de tous ces objectifs, qui seront décisifs en cas de remontée des luttes. Alors votez et faites voter pour ma candidature, et une fois l'élection terminée, continuons ensemble ce combat.